votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Savoir Plus. Cette semaine, nous allons aborder plusieurs événements qui vont se dérouler autour de l'exposition Pologne qui aura lieu au musée du Louvre-Lens à partir du 25 septembre et jusqu'au 20 janvier prochain. Nous allons tout d'abord nous arrêter sur le festival Muse et Piano, dont c'est la 4e édition et qui se déroulera à partir du 27 septembre et jusqu'au 29 septembre prochain. Un festival qui tente de décloisonner la musique classique avec dans leur forme des concerts inédits écoutables à l'aide d'un casque, tandis qu'on se déambule dans le musée du Louvre-Lens, c'est la présence d'artistes d'envergure internationale comme la pianiste franco-japonaise Momo Kodama, le jeune pianiste allemand Joseph Moog et la pianiste lituanienne Musa Rubackytė. Une édition qui sera également teintée de jazz cette année avec la présence du pianiste Paul Lé. Les précisions avec Rodolphe Bruno Boulmier de l'association ALVB, par ailleurs programmateur à France Musique, qui organise ce concert en partenariat avec le Louvre-Lens.
Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre association ALVB ?
Oui, ALVB, Ars Longa Vita Brevis, l'art est long et éternel, la vie est brève. C'est une association qui a 4 ans. Le but de cette association, c'était de proposer des événements culturels de grande qualité, mais toujours en partenariat avec un lieu. Et lorsqu'on a créé cette association avec Jason Vils, qui est originaire d'Arras, on s'est spontanément tourné vers le Louvre-Lens pour créer notre festival. Le but vraiment de l'association, c'était défendre le répertoire de la musique classique, trouver une nouvelle façon de présenter la musique classique avec des concerts courts, avec un accès au public plus facile, avec la recherche d'un public différent. Et donc c'était l'enjeu principal de l'association.
C'est la 4e édition de Muse et Piano. Comment le festival a-t-il évolué depuis sa création ?
L'idée, et ce qui est important, je crois, c'est de chaque année de proposer un événement nouveau. On est parti avec un piano, ensuite on a fait du deux pianos, ensuite on a fait du piano et de l'électro. Cette année, on va faire du piano et du jazz, on va faire un concert sans fil. Je pense que ce qui fait qu'un événement grandit, évolue, c'est que chaque année, il se métamorphose sans perdre son identité. L'identité, c'est vraiment faire des concerts dans ce musée qui est incroyable, le musée du Louvre-Lens, où l'accès aux œuvres est immédiat. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près du public, ça c'est, on va dire, c'est l'ADN et ça ne doit pas changer. Et le temps d'un week-end, proposer plein de concerts et qu'il y ait quelque chose de très festif. Après, se métamorphoser chaque année, c'est difficile et c'est l'enjeu. Comment est-ce qu'on peut se renouveler ? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau ? Comment ne pas se répéter aussi ? Faire appel à des artistes différents ? Prendre des risques ? Cette année, on va prendre des risques justement avec un concert avec des nouvelles technologies. Ne pas se contenter de ce qu'on a à chaque fois. Et se renouveler, c'est aussi chercher de nouveaux partenaires financiers, c'est grandir en fait. Et ça, je pense que c'est important pour le festival.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des 4 pianistes qui sont présents pour ce festival ?
Ambition internationale, l'ouverture se fera avec la pianiste franco-japonaise Momo Kodama, avec ce fameux concert sans fil, le Silent Wi-Fi Concert, qui est une grande interprète. Elle est née au Japon, elle a fait une partie de ses études en Allemagne, elle vit en France aujourd'hui. C'est une artiste très engagée pour la création musicale, elle a rencontré plein de compositeurs vivants, et à la fois c'est une grande interprète de Chopin, et c'est pour ça que je l'ai fait venir, puisque cette année l'exposition c'est Pologne, et que le grand compositeur polonais c'est Chopin, donc on va faire un premier concert avec elle. Ensuite, toujours dans cette soirée d'ouverture, le pianiste de jazz Paul Lai. J'aime beaucoup le jazz parce que je trouve que la possibilité d'improviser, ça ouvre toujours de nouvelles perspectives. Et depuis le début, j'avais envie de faire venir des pianistes de jazz et il fallait tester d'abord le public. Donc très souvent, je demandais au public est-ce que vous aimez le jazz pour voir un peu s'il y allait avoir le public pour. Et je pense que cette année, on est prêt puisque c'est une façon d'écouter un peu différente. Ensuite, le deuxième jour, on reçoit la pianiste Musa Rubackytė, qui est une grande pianiste lituanienne qui a une 60aine d'années, qui a fait ses études à Moscou au moment où la Lituanie était communiste, au conservatoire de Moscou. Ensuite, elle a gagné un grand concours. Elle a une vie qui est romanesque. Elle a été suivie par le KGB parce qu'on pensait qu'elle était dissidente. Elle a été proche d'un des premiers présidents de la nouvelle Lituanie. Elle a vraiment milité pour l'indépendance de son pays. C'est une femme qui est à la fois engagée politiquement pour l'indépendance de son pays et qui est devenue l'une des plus grandes interprètes de la musique de Liszt qu'elle joue dans le monde entier. Et puis, le dernier jour, pour nous, ce qui est important, c'est de s'ouvrir à la jeunesse. On est une jeune association, on n'est pas tout à fait vieux encore, donc on veut vraiment de jeunes musiciens et on fait venir un jeune pianiste allemand qui a une trentaine d'années, qui aime beaucoup la France, qui vit à Berlin et qui viendra jouer la musique de Chopin puisque c'est l'un des grands interprètes du moment de Chopin. Il vient de publier un disque autour de ce compositeur. Donc on aime bien aussi finir le festival comme ça avec l'avenir.
Je reviens un petit peu sur cette innovation technologique, le Silent Wi-Fi Concert, donc avec comme partenaire Yamaha. Comment est venue cette idée ?
Yamaha est notre partenaire historique. Depuis le début, ils nous soutiennent, ils nous offrent des grands pianos de concert. Donc on est en lien permanent avec eux, on est vraiment en discussion. Et il y a à peu près un an, ils nous ont dit on est en train de tester une nouvelle technologie, à savoir du concert sans fil. Le public pourrait écouter le concert au casque, se balader et avoir son concert en direct avec son pianiste qui est dans la salle, mais il n'est plus figé sur son siège et il a la musique au plus près de lui. Et donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant, peut-être que dans un musée comme ça, qui ne cloisonne pas les salles avec cette galerie du temps qui est une grande frise, un musée qui n'arrête pas d'ouvrir à l'espace, à la lumière, on s'est dit, ce concert, il faut qu'on le fasse ici. Et donc il nous a dit, ok, on essaye, c'est la première année où on va lancer ce système en France, vous serez... On prend des risques parce qu'on va être un peu cobaye de cette nouvelle technologie, on ne sait jamais avec les nouvelles technologies si ça va marcher à 100%, mais je pense qu'il faut prendre des risques et donc on va tester ce concert sans fil. Je trouve qu'aujourd'hui c'est important parce qu'on voit que les jeunes écoutent de plus en plus la musique au casque, qu'on a besoin d'une proximité avec le son. Je pense que c'est peut-être un des avenirs possibles, pas le seul évidemment, parce que le concert classique restera toujours tel qu'il est, parce que c'est important aussi d'avoir plusieurs modes d'écoute, mais c'est peut-être un des avenirs de la musique classique aussi, ces concerts sans fil sous casque.
Et ça répond peut-être à une de vos inquiétudes dont vous nous faisiez part au début de votre intervention, quant à la raréfaction du public lors des concerts de musique classique par exemple.
Oui, pour moi c'est l'une des inquiétudes. Je suis producteur à France Musique, donc mon métier c'est tous les jours de parler de la musique classique. Je suis compositeur, donc je suis en lien permanent et je crée de la musique pour les interprètes. Et je suis évidemment aussi un auditeur de musique classique. Je vais au concert, j'écoute la radio, j'achète des disques, j'écoute le disque. Et je vois qu'il y a une nouvelle génération de musiciens qui est en plein pied avec sa réalité, avec son époque qui est belle, qui est passionnante. Mais je ne vois pas tout à fait la même chose du côté du public. Le public ne se renouvelle pas totalement et je pense qu'on parle beaucoup d'un public vieillissant. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour écouter la musique classique et que ce public qu'on dit vieillissant, il est important parce qu'on ne va pas être snob. La personne âgée aime la musique classique et il faut qu'elle soit là et on a besoin de cette personne. Mais il faut aussi penser à renouveler le public et je voudrais que les jeunes écoutent la musique classique plutôt. Et je pense qu'on a souvent dit la musique classique fait peur aux jeunes. Et en fait, je pense que c'est un faux problème. Je ne pense pas que ce soit la musique classique qui fasse peur aux jeunes, mais c'est plutôt le concert et tout ce qu'il y a autour de la musique classique qui peut faire peur. Il n'y a pas besoin d'aimer la musique, enfin il n'y a pas besoin de connaître, on va dire, la musique pour aimer une œuvre de Chopin, de Schubert, de Bach, de Beethoven. En fait, cette musique, on la voit partout, on les voit dans les pubs, on la voit dans les films. Et je pense que tout le monde aime la musique classique, mais ne le sait pas forcément. Et que ce répertoire, qui est le répertoire de l'humanité, est le plus important et le socle de toutes les musiques qui viendront par la suite. En revanche, ce qui, je crois, plus compliqué, c'est que tout le monde n'a pas un accès facile à cette musique et qu'aujourd'hui le concert classique, par son décorum, par son prix des places qui est parfois un peu cher, par ses concerts qui sont un peu longs, un peu guindés, par le fait qu'on ne doit pas faire de bruit, on ne doit pas applaudir entre les mouvements, par tout ce qu'il y a autour, ça peut intimider l'accès qu'on peut avoir à cette musique. Et c'est à ça, je pense, qu'il faut réfléchir aujourd'hui, c'est comment on peut donner accès à cette musique de manière beaucoup plus décomplexée, sans dénaturer les œuvres. Moi, en fait, ce que je déteste, c'est quand on nous fait croire qu'on va aimer la musique classique en changeant un peu les œuvres, en les faisant swinger d'une manière différente, en modifiant la partition. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de modifier une partition, il faut la laisser telle qu'elle est, il faut rester à l'original. En revanche, c'est l'accès à cette musique qu'on doit modifier. Comment on peut aujourd'hui être amené à écouter plus facilement de la musique classique de manière décomplexée, de manière tout à fait naturel, comme on le ferait pour n'importe quelle autre chose, comme on le fait quand on va à un musée, comme on le fait quand on prend un livre et que d'un coup on lit ce livre, comme on le fait quand on va au cinéma. Quand on va au cinéma, on se dit pas il faut que je m'habille comme ça, est-ce que je vais avoir le droit de faire ça. C'est un de, je pense, des enjeux de l'avenir de la musique, c'est de savoir comment on va pouvoir simplifier l'accès à ce répertoire.
Est-ce que vous parlez beaucoup de concerts, c'est pas la seule façon d'écouter de la musique. Les jeunes écoutent beaucoup de musique sur Spotify, sur Deezer, les plateformes de streaming. C'est pas une solution pour écouter plus de la musique classique ?
C'en est une, évidemment. Moi-même, j'écoute aussi beaucoup sur des plateformes de téléchargement. Ce n'est évidemment pas la seule pour deux raisons. D'abord parce que, en tant que professionnel de la musique et du son, je trouve que le son proposé par ces plateformes est mauvais. C'est du MP3, c'est un son extrêmement compressé et c'est du mauvais son. Et ce qui est important, je pense aussi pour l'oreille, c'est quelque chose qui s'éduque comme un muscle et qu'on fait du sport pour devenir plus musclé, pour avoir un corps bien en forme. Et on mange des choses saines pour ne pas tomber malade. Et c'est la même chose pour l'oreille et il faut lui donner du bon son. Et le MP3 est un son complètement compressé qui enlève l'espace qu'il peut y avoir dans les instruments, entre les œuvres, sur la voix d'un chanteur. Et donc c'est un accès qui est bien, qui est immédiat, qui est sympathique, qui permet de se forger un goût, d'aller d'une œuvre à une autre assez facilement. Mais en soi, ça ne suffit pas. Parce que c'est un petit peu comme si on mangeait du McDo tous les jours. Alors j'exagère un tout petit peu, mais la qualité proposée par iTunes, par Spotify n'est pas suffisante à mon sens. Et ça remplacera jamais l'écoute et l'émotion du concert. Et moi je crois que mes plus grandes émotions musicales, je les ai vécues lors du concert. Parce que déjà lors d'un concert, on est concentré, on va au concert, on pense pas à autre chose. Alors que lorsqu'on écoute chez soi, on peut faire d'autres choses. Là tout d'un coup, on est dans la salle, on est concentré. Et puis on vit la chose en temps réel. On voit le musicien prendre des risques, il peut se tromper, il peut se passer n'importe quoi pendant un concert, ce qui ne se passera jamais dans un disque puisque tout est déjà enregistré et calé. Et donc tout simplement, c'est la vie. Et je pense que c'est aussi l'un des enjeux de l'avenir. On voit que les gens aujourd'hui restent plus souvent chez eux. Avec Netflix, c'est plus facile de regarder une série chez soi que de faire l'effort de, parfois dans le Nord, braver la pluie pour aller à un concert, etc. Et pourtant, je suis persuadé que les grandes émotions, ce ne sera pas seul dans son canapé en train de regarder Netflix, ce sera en partageant un concert avec les autres, en vivant la chose en vrai, tout simplement.
On termine par quelques informations pratiques. Donc les tarifs proposés sont très accessibles. Hein. C'était une volonté politique ?
Oui, une volonté politique parce que je pense que quand on fait un festival, il faut pouvoir faire tout le festival et non pas venir à un événement parce qu'on se dit « Oh là là, c'est cher, je vais faire ce concert-là et du coup, je vais sacrifier les autres. » Donc on offre un pass, 35 euros pour nos abonnés et pour 35 euros, on peut faire tous les concerts, les 5 concerts principaux, les concerts gratuits, les rencontres avec les artistes. Et je pense que ce festival, on le pense comme un moment court sur une période très courte, 2 jours, enfin 3 jours si on compte le concert d'ouverture du vendredi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir plonger justement dans cet univers. Pendant 3 jours, on va être plongé dans l'univers du piano, on va entendre des personnalités très différentes, on va utiliser le lieu dans toute sa structure, de la scène à l'exposition temporaire, au hall, à l'agora. Donc l'idée, c'est vraiment de plonger et de tout faire. Et en tant qu'organisateur, je pense le festival de A à Z, et je le pense pour le public. Donc le public doit pouvoir faire ce festival de A à Z sans sentir d'overdose, sans sentir de lassitude ou de répétition.
Rodolphe Bruno Boulmier de l'association ALVB qui répondait à mes questions ainsi qu'à celles de Lucie Leclerc de Radio Plus à propos du festival Muse et Piano qui se déroule, je vous le rappelle, les 27, 28 et 29 septembre prochains. Et voici justement la pianiste Momo Kodama. C'est elle qui inaugurera ce concept de concert Wi-Fi silencieux le vendredi 27 septembre à 20h sur la scène du Louvre-Lens. Et donc également au sein du musée, puisque vous pourrez écouter ce concert au casque en flânant au sein des expositions. Voici un extrait de son album consacré justement à Frédéric Chopin, Piano Works, l'impromptu numéro 1 en La dièse majeur, opus 29. Thank you. À l'instant, c'était l'impromptu numéro 1 en La dièse majeure, opus 29 de Frédéric Chopin, interprété par la pianiste Momo Kodama, qui sera donc présente au Louvre-Lens, sur la scène du Louvre-Lens, le vendredi 27 septembre à 20h, dans le cadre de ce concert Wi-Fi silencieux, que vous pourrez d'ailleurs écouter au casque tout en déambulant au sein du musée du Louvre-Lens. À présent, eh bien, nous allons évoquer dans Savoir Plus sur Radio Plus la programmation des différents événements et expositions prévus sur le thème de la Pologne, en compagnie de Virginie Labroche, la programmatrice de la scène du Louvre-Lens.
Parlez-nous un peu de ces trois cycles d'exposition autour de la Pologne.
Alors, en fait, à partir du 25 septembre, donc, le musée du Louvre-Lens se met aux couleurs de la Pologne. On aura deux grandes expositions. Une grande exposition sur la peinture polonaise, 19e et début 20e siècle. Et puis, dans le pavillon de verre, une exposition de photos, plutôt sur l'immigration polonaise, avec une exposition consacrée à Kazimierz Zgorzelski, qui est un migrant polonais qui s'est spécialisé dans la photo, qui a créé son studio photo et qui prenait des portraits de famille, qui faisait des cartes d'identité. Donc, on a retrouvé tout un corpus d'images comme ça de cette période, des années 1930, de Polonais sur ce territoire. On appelait ça la Petite Pologne. Donc voilà, on a ces deux grandes expositions et autour, on a créé une programmation en trois cycles qui sont à la fois chronologiques et qui permettront aussi aux visiteurs d'explorer un peu cette Pologne qu'on va présenter au travers de l'histoire de l'art. Donc il y aura un premier cycle qu'on a intitulé Cultura Polonia, qui est en fait autour de la culture polonaise avec un grand C ou avec un grand K, selon comment on l'écrit, avec cette idée de présenter à nos publics des grands noms de la culture polonaise qu'on connaît pas forcément. Voilà, on connaît Chopin, en général, tout le monde connaît Chopin, mais on connaît moins un auteur qui s'appelle Gombrowicz, qui est pourtant un auteur du XXe siècle qui a eu un prix Nobel, ou Adam Mickiewicz, un poète romantique. Voilà, il y a quelques compositeurs aussi qu'on pourra découvrir dans cette section autour de la grande culture polonaise, la culture classique. Donc il y aura des concerts, il y aura du théâtre, il y aura notamment un rendez-vous avec un jeune metteur en scène qui va nous proposer une sorte de medley finalement de tous ces auteurs dont je viens de vous parler, sur une soirée. Ça sera vraiment l'occasion de découvrir, de rentrer dans cette culture polonaise. Ensuite, on a un deuxième cycle qu'on a intitulé Polonitude, où là, on est vraiment autour de l'immigration polonaise, avec une grande table ronde sur cette arrivée massive, il y a 100 ans maintenant, des Polonais sur le territoire, avec également des artistes, des jeunes metteurs en scène qui sont d'origine polonaise, dont les grands-parents étaient polonais, voir un peu ce que ça donne, en fait, dans leur culture à eux, dans comment ils transmettent ça dans leur art, est-ce que ça les influence ou pas, ses origines polonaises. Donc il y aura du théâtre, il y aura Le Maître et Marguerite, mis en scène par un metteur en scène polonais qui a un grand texte russe absolument magnifique, une histoire d'amour incroyable, fantastique, avec le diable qui s'en mêle. On aura Le Crépuscule aussi de Thomas Piasecki, qui est d'origine polonaise mais qui est de Divion dans la région. Là, plutôt une saga familiale, très beau spectacle aussi. Et enfin, l'idée, c'était de présenter des artistes polonais d'aujourd'hui, des artistes qui vivent en Pologne, qui vivent, travaillent en Pologne et à l'international. Donc là, quelques rendez-vous importants. Il y aura un spectacle pour les tout-petits qui s'appelle Trace, d'une compagnie polonaise. Et puis, un grand rendez-vous avec un jeune contre-ténor. Donc, c'est les chanteurs qui ont une voix assez aiguë, les contre-ténors. Il s'appelle Jakub Józef Orlinski. Il est assez étonnant parce qu'il est à la fois chanteur contre-ténor, donc avec un répertoire magnifique, et il est également danseur hip-hop. Donc, je ne sais pas s'il nous fera une petite démonstration. En tout cas, voilà, c'est un grand chanteur qui tourne dans le monde entier. Donc, on est très, très heureux de pouvoir l'accueillir en janvier, ici à la scène.
Avec également une carte blanche donnée aussi aux associations de la région.
Alors c'était important pour nous effectivement de donner la parole et d'ouvrir le musée vraiment à ces associations polonaises. Donc la semaine du 11 au 17 novembre, on aura toute une semaine avec différentes associations du territoire, de Douai, d'Arnes, un petit peu plus loin aussi de Longo en Picardie, qui viendront animer le musée au au gré de la musique, des chorales, du théâtre, de la danse. Et on découvrira finalement ce folklore polonais qui est arrivé avec cette immigration, qui est finalement peut-être assez loin de ce qu'est la Pologne aujourd'hui. C'est un folklore qui a été importé, c'est une sorte de Pologne un peu figée dans le temps, mais que les associations continuent à faire vivre et qui est très riche en gastronomie, dans les arts, dans la peinture, etc. Ça sera des moments très festifs et gratuits toute la semaine.
Et puis également ce bal hein, de la Sainte-Barbe.
Alors oui, chaque année on fait un bal costumé ou pas, ça dépend, mais on fait toujours un bal en tout cas. Et là on a demandé à un chorégraphe de la région qui s'appelle Cyril Vialon, qui est presque chorégraphe officiel de tous nos bals, hein, parce que c'est son troisième maintenant, d'animer un bal polonais, ce qu'il a accepté avec un grand enthousiasme. Alors Cyril, c'est quelqu'un d'assez exubérant, de très drôle, qui vraiment arrive à nous faire danser sur n'importe quelle thématique. Et donc là, autour de la Pologne, il travaille avec un danseur, violoniste, chanteur et avec une danseuse. Ils sont en train de nous préparer, de nous concocter des petites chorégraphies qui seront simples à faire pour tous. Et voilà, c'est un moment festif dans le cadre des fêtes de la Sainte-Barbe. On pourra danser, boire un coup et s'amuser tous ensemble.
Ce bal, est-ce qu'il sera costumé cette année ?
Alors, a priori, non. Mais comme Cyril est en train de le préparer, peut-être qu'au dernier moment, on annoncera qu'il faut un petit accessoire ou un costume, plutôt un accessoire qu'un costume, je pense, qui ferait référence à la Pologne. C'est possible, c'est pas impossible en tout cas.
À part ce temps fort du bal, je me demandais si les gens qui vous visitaient, qui allaient aux événements différents d'origine polonaise, pourraient eux aussi s'exprimer ou se renseigner directement auprès des acteurs de ces événements-là.
Alors, il y a des moments de rencontre qui vont être organisés, notamment avec l'équipe de médiation. Effectivement, on imagine par exemple des cours de polonais. Ça, c'est l'occasion pour les gens de ces associations qui parlent polonais en général, hein, de pouvoir transmettre, de pouvoir faire découvrir. Ça sera le cas aussi dans le spectacle Transpolska. Il y aura un petit peu de polonais. C'est important d'entendre la langue. Il y aura des moments de rencontre qui sont prévus. Entre eux, ils se connaissent bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment aussi de montrer. Nous, on a des visiteurs qui viennent du monde entier, donc de faire une sorte de transmission comme ça, peut-être sous forme de visite ou de coup de cœur. On le disait tout à l'heure dans l'exposition, il y a vraiment des chefs-d'œuvre de l'art polonais, de la peinture polonaise, avec des tableaux qui sont dans les livres d'histoire. Donc du coup, pour plein de Polonais, de voir ces tableaux en vrai, c'est comme si nous, dans un pays étranger, on tombait sur la Joconde, un tableau qu'on connaît, qui est vraiment une icône. C'est un peu la même chose pour eux. Donc d'en parler autrement qu'à travers un discours d'histoire de l'art, de façon un peu sensible, oui, bah, ce tableau, il y avait une reproduction chez mes grands-parents ou ce genre de choses. C'est important aussi pour nous dans les échanges avec nos visiteurs. Donc il y aura effectivement des temps de parole, d'échanges, tours de rencontres, de conférences.
Et cette exposition de peinture d'artistes polonais, Pirala disait tout à l'heure, elle n'aurait pu se faire qu'ici. C'est une manière de souligner les liens aussi très forts entre la région et la Pologne.
Bah, effectivement, on est une région qui a accueilli énormément les Polonais à différentes reprises. D'ailleurs, hein, il y a eu plusieurs vagues d'immigration polonaise. On avait des quartiers entiers qui étaient polonais, où on parlait polonais, où le club de foot était polonais, notamment ici à Lens, dans les cités voisines, et puis même autour. Ils sont essentiellement venus pour travailler dans les mines, mais pas uniquement. Donc il y a effectivement une très très grosse communauté. Je pense que oui, ça, vous ne faites pas cette expo-là à Marseille, c'est évident. Ça, c'est, on a ici une petite Pologne, on a une vraie diaspora et qui encore aujourd'hui vit encore dans le souvenir, ou en tout cas dans les liens à ce pays.
À l'instant, Virginie Labroche, la programmatrice de la scène du Louvre-Lens, qui répondait à nos questions. Et voici un des artistes polonais qui se produira sur la scène du Louvre-Lens aux côtés de Jerzy Rogiewicz le samedi 30 novembre prochain. Il s'agit de Marcin Mazecki. C'est le compositeur de la bande originale du film Cold War, qui sera d'ailleurs projeté deux jours avant, le 28 novembre, sur la scène du Louvre-Lens également. Voici le titre Dva Serduszka, extrait de la bande originale de ce film avec la chanteuse Joanna Kulling.
Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. życie. Kiedy chłopiec chorzy miły, ojojoj. I któż by miał tyle siły, ojojoj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie lubiło. Żebym chłopca nie kochała, ojojoj. A ja chłopca chab za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać.
Du jazz en polonais, ça existe, et c'était la très belle chanson Dwa Serduszka, interprétée par Joanna Kulling et en compagnie du pianiste de jazz polonais Marcin Mazeki, qui se produira donc le samedi 30 novembre prochain sur la scène du Louvre-Lens, et qui est un des auteurs de la bande originale du film Cold War, qui sera lui projeté deux jours avant, le 28 novembre, toujours sur la scène du Louvre-Lens, dans le cadre de ce cycle de spectacles et de conférences autour de des expositions Pologne, qui démarre donc à partir du 25 septembre, mais il y a déjà plusieurs événements qui ont démarré depuis le 26 août dernier. Alors, pour terminer sur ce sujet, nous avons eu la chance d'interviewer l'acteur Cédric Lemahout, originaire de Lille et connu pour son rôle de bras droit dans la célèbre série Capitaine Marlowe. Il possède des origines polonaises et c'est un véritable amoureux de ce pays. Il sera sur la scène du Louvre-Lens pour le spectacle Transpolka de la compagnie La Fabrique à Rêves, avec la présence sur scène du violoniste Stefa Stalanowski.
Sur quoi va porter votre spectacle ?
Alors, le spectacle s'appelle le Transpolska. Ça va être un voyage à la fois littéraire, musical, photographique, à la découverte de la Pologne du 19e à aujourd'hui, et j'ai envie de dire même à demain, puisque la Pologne est en pleine mutation, très moderne après l'époque communiste. Voilà. Donc, c'est découverte de textes. On va partir de Mickiewicz, qui est le grand auteur romantique, c'est un peu le Victor Hugo polonais. Et puis, on va découvrir des auteurs plus contemporains, et puis dans des registres à la fois fantastiques, satiriques, enfin, on va vraiment englober beaucoup de choses. Il y aura des collages de photographies de la Pologne. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le rêve et sur le collage. Donc, je suis allé en Pologne cet été pour faire plein de photos de la Pologne, des paysages, les chantiers navals de Gdańsk, enfin, voilà. Plein de paysages polonais que vous allez découvrir en projection. Et puis, je serai accompagné par Stefan Stawanowski, qui a été premier violon de l'Orchestre National de Lille pendant la période de Casatu, donc pendant des années. Deux événements, donc à la scène, au plateau, une forme d'une heure, les 11 et 12 octobre, et puis en déambulation, on va travailler une espèce de teaser, une sorte de bande-annonce du spectacle au sein de l'exposition Pologne, donc pour vous donner envie de découvrir la grande forme, et puis voilà, de faire résonner les différents arts polonais, les peintures, les textes, la musique, et de vous transporter dans un voyage.
Ces bandes-annonces vont prendre la forme forme de vidéos ou de pièces dispersées dans l'exposition ?
Alors en fait, j'ai une compagnie qui s'appelle La Fabrique à Rêves et on a créé un dispositif qui s'appelle une Fabrique à Rêves mobile. C'est une espèce de chariot qui a traversé les époques, qui est à la fois très vintage et en même temps très moderne par certains aspects. Et en fait, il y a un écran, il y a un clavier, il y a un micro, il y a plein d'outils de création. Et donc ça va permettre de transporter le spectateur dans la Pologne et de faire le lien entre donc, l'exposition et la création de Transpolska.
Vous parliez de plusieurs textes tout à l'heure. Est-ce qu'ils seront joués ou est-ce que ce sera des lectures ?
Alors en fait, c'est un mix de lecture et de spectacle. C'est un peu une lecture-spectacle. Donc il y a des textes qui vont être lus, il y a des textes qui vont être dits. Il y a des lettres aussi, donc ça, je trouve que ça se prête bien à la lecture. Et comme on a plein d'univers différents, il y a un auteur de la région qui a écrit des petits passages de transition et qui va aussi évoquer la question de la polonité, comment ici dans le Pas-de-Calais peut résonner la culture polonaise. Donc c'est Mathieu Frakowiak, dont le premier roman vient de sortir, il s'appelle Stolperstein, donc mélange de lecture et de spectacle.
Et sur scène, en tant qu'acteur, vous serez seul ?
Alors effectivement, sur scène, je serai seul, mais accompagné du violoniste de Stéphane. Et il y aura une voix off aussi sur le plateau, je serai seul. Et aussi, chose importante, c'est qu'on s'est croisé avec les gens du Louvre il y a un petit temps à Varsovie. Donc c'était une rencontre inattendue. Et ce projet est vraiment en train de se développer, puisque le département du Pas-de-Calais s'est donc associé à cette création et a acheté une tournée en fait, du spectacle. Donc le spectacle sera en tournée sur tout le bassin minier, dans les médiathèques, dans les auditoriums. Donc spectacle soutenu par le département du Pas-de-Calais pour une tournée sur la fin 2019.
Plus de précisions à ce propos, est-ce que vous comptez investir les salles de théâtre et peut-être, si ça fonctionne, les autres régions de France ?
Alors complètement, là c'est encore très frais pour en parler, mais il y a des contacts avec l'Institut polonais, avec l'Institut Mickiewicz, donc pour faire vraiment connaître le spectacle et la culture polonaise en France. Mais j'ai envie de dire, moi, le grand rêve ce serait aussi de pouvoir aller jouer le spectacle en Pologne, et pourquoi pas avec le Musée National de Varsovie, parce que je trouve que ce serait dans un partenariat, ce serait vraiment super. Donc là c'est encore un peu frais pour en parler, mais l'idée c'est vraiment que ce spectacle puisse circuler en France et puis en Pologne.
Vous précisez aussi que vous parlez vous-même polonais, donc c'est un projet possible.
Tak, ja mówię po polsku. Voilà, mais j'ai des racines polonaises, mes grands-parents étaient polonais, et c'est un pays que j'adore. Et donc, pareil, pendant le spectacle, je vais reprendre quelques passages de textes en français et en polonais pour que les gens puissent entendre la musicalité de la langue. Enfin, que dans l'idée d'un voyage, c'est quand même beau de faire résonner un petit peu la langue polonaise aussi.
Elle ressemble à quoi, la Pologne, aujourd'hui ?
Il y a une partie très rurale et il y a aussi maintenant de grandes villes qui sont comme Varsovie ou même Poznań qui sont extrêmement modernes. Ils sont très orientés quand même à Amérique, donc on a d'énormes centres commerciaux, d'énormes malls, beaucoup d'investissements européens, donc avec des infrastructures presque, j'ai envie de dire, plus modernes qu'ici. C'est assez incroyable et très en contraste, moi je trouve. Donc une ville comme Varsovie, on a à la fois ces immeubles de l'époque communiste et en même temps, ces grands gratte-ciel ultra modernes. La Pologne, c'est un pays avec une culture et qui artistiquement est vraiment foisonnant. Il y a une grande tradition du cinéma aussi, avec une des plus grandes écoles de cinéma au monde à Łódź, qui est une ancienne ville textile, un petit peu comme Roubaix, j'ai envie de dire. Culturellement, artistiquement, c'est foisonnant. Il y a une énergie qui est assez dingue, je trouve. Et pour Varsovie, il y a des gens qui ont un peu tendance à comparer cette ville à Berlin, en fait, hein, un nouveau Berlin. Et c'est étonnant. En fait, je pense qu'on a beaucoup de préjugés sur la Pologne. On se dit Europe de l'Est, pays pauvre, etc. Mais c'est un pays qui est en pleine transformation. Et il y a une énergie, un foisonnement. Et puis, l'accueil des Polonais qui est quand même des gens généreux et... on y mange très très bien, il y a des paysages magnifiques, et un pays, je vous dis, très contrasté, mais très très beau.
À l'instant, l'acteur Cédric Lemaout qui répondait à nos questions et qui sera sur scène le 12 octobre prochain pour le spectacle Transpolska, avec trois représentations programmées à 11h, 15h et 19h. Alors pour tout renseignement concernant l'ensemble de ces événements, que ce soit le festival Muse et Piano, mais également les spectacles, conférences et expositions autour de la Pologne, rendez-vous sur le www.louvrelance.fr ou par téléphone au 03 21 18 62 62. 03 21 18 62 62. Voici Autour de Lucie sur Radio Plus. Très bonne fin de matinée.
Proche à se toucher, pays frontalier, passeport ou carte d'identité.
Autour de Lucie sur Radio Plus. Allez, on s'intéresse à présent à l'actualité du département du Pas-de-Calais. Et une actualité du département qui est également largement consacrée à ce centenaire de la Convention d'immigration entre la France et la Pologne, avec une exposition pour commencer, Stolat, la Polonia à 100 ans. L'exposition retrace les parcours des familles venues de Pologne. Elle évoque également les rencontres entre les cultures françaises et polonaises et pose la question de la transmission de cette mémoire jusqu'à aujourd'hui. Vous découvrirez dans cette exposition des reproductions et facsimilés d'archives, mais également des films, des documents audio, ainsi que des dispositifs de manipulation axés autour des sens et accessibles aux petits comme aux grands. Exposition visible du 3 septembre au 24 novembre prochain, ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Il y aura également une ouverture exceptionnelle dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les samedis et dimanches 21 et 22 septembre, les 26 et 27 octobre et le 16 et 17 novembre, à l'occasion de la semaine des associations polonaises au Louvre-Lens, dont on a parlé tout à l'heure avec notre invitée Virginie Labroche. Et donc, bien évidemment, si vous souhaitez participer à cette exposition, si vous voulez découvrir cette exposition, c'est gratuit. Ça se déroule à la Maison syndicale des mineurs, au 30 rue Casimir Beunier à Lens. Les informations, c'est auprès des archives départementales du Pas-de-Calais, au 03 21 71 10 90, 03 21 71 10 90. Lara Fabian avec Morane, tu es mon autre sur Radio Plus. On poursuit l'actualité du département, toujours autour du centenaire de l'immigration polonaise dans la région, avec le département qui organise une collecte d'archives sur les Polonais et le sport. Ce sont plus précisément les archives départementales, le comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais et l'université d'Artois, la maison des sports à Angres, qui sont à l'origine de cette collecte. Alors si vous possédez des documents en rapport avec cette thématique, les Polonais et le sport, vous pouvez vous rendre tout au long du mois de septembre à la maison des sports à Angres pour obtenir des conseils sur la conservation de ces documents ou même les confier à un service d'archives. Attention cependant à contacter préalablement par courriel à archive62@padcalais.fr ou par téléphone au 03 21 21 91 83, 03 21 21 91 83, eh bien, les associations, les structures, pardon, qui justement effectuent ces collecte pour justement évaluer ces documents, savoir s'ils ont un intérêt pour l'histoire locale. Et alors, donc, vous pouvez apporter comme document des photographies personnelles, des films d'événements sportifs, ce qui est quand même, à mon avis, assez rare, mais bon, des correspondances, des affiches, des tracts, etc. Et également des archives, hein, si vous étiez, par exemple, dans une association de sport polonaise, des objets symboliques comme des maillots, des ballons dédicacés, etc. Et voilà, donc, n'hésitez pas à fournir un maximum de renseignements aux archives du Pas-de-Calais qui effectuent, qui chapeautent cette collecte autour du sport et de la Pologne. Voilà, concernant cette information, on repart tout de suite eh bien, en musique sur Radio Plus avant de retrouver d'autres informations pardon, concernant l'actualité du département.
And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your hand, but you played.
À l'instant, sur Radio Plus, c'était Aretha Franklin avec Rolling in the Deep, sa reprise de la chanson d'Adèle. Et oui, Aretha Franklin qui avait repris ce morceau d'Adèle. C'était d'ailleurs son dernier single avant sa mort en 2018. Allez, tout de suite, sur Radio Plus, encore quelques informations. On va parler d'une information qui va intéresser surtout les automobilistes dans le département du Pas-de-Calais. C'est la dernière ligne droite, figurez-vous, pour le chantier de la route départementale 301 à Aix-Noulette, ce fameux goulet d'étranglement qui vous enquiquine un petit peu au quotidien depuis des années. Vous le savez, le département a décidé de doubler sur 850 mètres une section de voirie de l'autoroute A21 et justement les travaux touchent à leur fin. Ça va bientôt passer à deux fois deux voies et dans les prochaines semaines il n'y aura plus que les finitions et les inspections réglementaire avant la mise en service officielle de ce tronçon en deux fois deux voies. Donc encore un petit peu de patience, ça va aller mieux d'ici quelques semaines. Allez, tout de suite, et bien sur Radio Plus, dans quelques instants, vous allez retrouver le Flash Info. N'oubliez pas, 14h, vous avez rendez-vous avec la Dolce Vita. Et à 15h, ce sera le retour de l'émission Tous en scène, en compagnie d'Annie, la Dame Brune, jusque 17h. Et puis à 17h, ce sera Localement Plus, en compagnie de Giovanni et de Willy. Très bonne journée à l'écoute de Radio Plus.
Commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients l'écoutent également.